RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir chers auditrices et chers auditeurs, voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le kaléidoscope de deuxième partie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et le magazine musical. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le kaléidoscope de deuxième partie, de juillet au décembre 2018.
Le service mondial RRI La Voix de l'Indonésie présente le Kaléidoscope 2018. Nous présentons des événements importants pendant 2018. Nous commençons par des événements de juillet à décembre 2018 présentés par TV Shakila.
Nous nous sommes tournés au juillet. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de cyber et des codes, ou BSSN, a signé une lettre d'intention dans le domaine de la cybercoopération avec le gouvernement néerlandais. Dans un communiqué de presse avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stefanus Abraham Blok, a déclaré que la coopération en matière de sécurité de cyber entre l'Indonésie et les Pays-Bas est un moyen d'augmenter les capacités et les échanges d'expériences entre les deux pays.
We agreed to launch a bilateral cyber dialogue.
Nous avons convenu de lancer le cyber dialogue bilatéral pour discuter des moyens d'améliorer les capacités et de partager notre expérience en matière de cyber législation et de protection des infrastructures cyber vitales. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec son homologue néerlandais Stefanus Abraham Blok à Gedung Pancasila au ministère des Affaires étrangères Jakarta le mardi 3 juillet. Après la réunion, la ministre Retno Marsudi a déclaré qu'elle avait demandé aux Pays-Bas d'aider l'Indonésie à faire face à la discrimination contre l'huile de palme qui était devenue l'un de ses meilleurs produits d'exportation. Le 4 juillet, le président indonésien Joko Widodo a proposé des moyens de surmonter le problème du retard de croissance chez les enfants grâce à l'utilisation de la technologie, à la participation du secteur privé et à l'inclusion de la société civile. Cela a été dit par le président Joko Widodo au palais présidentiel de Bogor, Java de l'Ouest, lors d'un appel officiel avec le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Puis, le 23 juillet, la ministre des Affaires étrangères d'Indonésie, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de Malaisie, Saifuddin Abdullah, à Jakarta. La campagne noire de l'Union européenne contre les produits de base de l'huile de palme a été l'une des préoccupations de la réunion. Après la réunion, la ministre Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie et la Malaisie travaillent toujours ensemble, même si le processus de trialogue entre les deux pays et l'Union européenne a été terminé. Avant, le premier ministre malaisien Mahathir Mohamad avait déclaré au président indonésien Joko Widodo que la Malaisie et l'Indonésie devaient travailler ensemble pour défendre l'huile de palme parce que l'accusation de l'Europe selon laquelle la production nuisait à l'environnement n'était pas vraie. Le premier ministre Mahathir Mohamad est convaincu que la raison pour laquelle l'Europe mène une campagne négative contre l'huile de palme d'Indonésie et de Malaisie n'est qu'un motif commercial. Ensuite, lundi le 23 juillet à Jakarta, le président de l'Agence de coopération interparlementaire du Parlement indonésien, Madame Nur Hayati Ali Assegaf, invite les parlements des pays de la région de l'Asie du Sud-Pacifique à échanger leurs points de vue et à rechercher des solutions communes aux problèmes internationaux envisagés par la région. Cela a été dit par Madame Nur Hayati Ali Assegaf à la session d'ouverture du partenariat parlementaire Indonésie-Pacifique ou IPP Jakarta du 23 au 24 juillet.
As we are aware, the objective of this meeting it is to promote better linkage.
Comme nous le savons, l'objectif de cette réunion est de promouvoir de meilleures relations dont nous devons choisir des sujets qui sont de l'intérêt de notre mandat en tant que représentants de notre peuple. Après avoir considéré attentivement, le comité sous ma direction a décidé de trois sujets sur le thème principal, le développement humain et la durabilité marine. Nur Hayati a également expliqué que la session a discuté sur le développement des ressources naturelles et humaines dans la région du Pacifique, la question économique bleue et le développement des capacités. L'Indonésie a accueilli cette activité assistée par 13 délégués du Parlement de 14 pays de la région du Pacifique. Puis, le 26 juillet, le ministre des Affaires étrangères d'Indonésie, Retno Marsudi, a souligné l'importance d'intensifier la coopération économique entre l'Indonésie et la Corée du Sud, en particulier la coopération industrielle, face à la tourmente économique mondiale. C'est la déclaration de la ministre Retno Marsudi au ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, Kang Kyung-hwa, lors d'une réunion bilatérale en Corée du Sud. Les deux ministres ont convenu de l'importance d'utiliser diverses opportunités offertes par le partenariat stratégique spécial adopté par le président Joko Widodo et Moon Jae-in en novembre 2017. Le 28 juillet, la conférence internationale des ulémas à Lombok a produit 9 accords dans l'effort pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme, comme indiqué dans le message de Lombok. Le secrétaire général de l'Organisation internationale des anciens Al-Azhar en Indonésie, Mukhlis Hanafi à Mataram, Nusa Tenggara Ouest, le samedi 28 juillet a déclaré que la conférence tenue à Mataram, Nusa Tenggara d'Ouest, a fait wasatiyah islamique en perspective Ahl-Sunnah wal-Jama'ah comme une méthode face à l'extrémisme et le terrorisme. Neuf accords sont entre autres Ahl-Sunnah wal-Jama'ah et ceux qui sont toujours en engagement à suivre la Sunnah du prophète Muhammad. Le sectarisme, le racisme et toute forme de discrimination sont contraires à wasatiyah islamique où l'islam la voie du milieu et doit être opposé de plusieurs façons. Cette conférence a été participée par les ulémas internationaux et les figures islamiques de 21 pays. Ensuite, nous nous sommes tournés en août 2018. Le 4 août, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a apporté le concept Indo-Pacifique Indonésie lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Singapour. Le gouvernement indonésien offre un point de vue sur la région Indo-Pacifique qui vise à renforcer la coopération dans le domaine maritime, la connectivité et l'agenda de développement durable. Le concept indonésien sur Indo-Pacifique vise à donner une valeur ajoutée aux mécanismes de coopération de l'ASEAN, notamment pour renforcer le sommet de l'Asie de l'Est. Dans le même jour, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec le secrétaire d'État américain Michael Richard Pompeo à Jakarta. Retno Marsudi a déclaré que de nombreux partis, y compris l'Indonésie, avaient apprécié les mesures positives prises par la Corée du Nord et les États-Unis pour réaliser la dénucléarisation de la péninsule coréenne.
Kita bicara mengenai masalah Korea Utara, tapi sebenarnya dalam konteks bagaimana menjadikan...
Nous parlons des problèmes de la Corée du Nord, en particulier dans le contexte de la manière de rendre la péninsule coréenne exempte d'armes nucléaires. Le sujet de la péninsule coréenne a fait l'objet de plusieurs réunions au sein de l'ASEAN. Plusieurs éléments ont également émergé comme éléments de bon accueil de toutes les parties à la réunion et des mesures positives. Il y a des choses à franchir, à savoir deux réunions intercoréennes et une réunion entre le président Trump et le président Kim à Singapour. Puis le 5 août, le président Joko Widodo était accompagné de la première dame Iryana Joko Widodo, le vice-président Yusuf Kalla et Madame Mufidah Yusuf Kalla étaient présents au concours Poco Poco qui a eu lieu à Monas, Jakarta. Le concours de Poco Poco comprend 65 000 participants de diverses institutions allant de l'armée, la police, le ministère et l'agence nationale, avec 1500 instructeurs. Poco Poco a brisé le record du monde enregistré par le Guinness World of Records en tant que plus grand gymnastique de Poco Poco au monde. Dans le même jour, le président Joko Widodo a reçu la visite du secrétaire d'État américain Michael Richard Pompeo au Palais d'État à Jakarta. Le président Joko Widodo a proposé une coopération sur le thème de la diversité et de la tolérance aux États-Unis. Le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie était le plus grand pays d'Asie du Sud-Est, en même temps le pays avec la plus grande population musulmane dans le monde. Mais l'Indonésie et beaucoup d'autres nations dans le monde passent encore au défi de maintenir la diversité existante.
Tantangan yang dihadapi oleh semua bangsa saat ini adalah bagaimana.
Le défi auquel toutes les nations sont confrontées aujourd'hui est de maintenir la diversité en se respectant mutuellement. Et le thème de la diversité et de la tolérance que je continue de déclarer jusqu'à présent. Toujours le 5 août, la triste nouvelle est venue d'Indonésie. Sutopo Purwo Nugroho, responsable du centre d'information sur les données et la relation publique de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, a annoncé qu'un séisme de 7 sur l'échelle de Richter avait secoué la région de Nusa Tenggara de l'Ouest à 18h46. Le tremblement de terre a fait plus de 600 morts, des centaines de personnes ont été blessées et des milliers de maisons endommagées. Selon Sutopo Purwo Nugroho, les régions les plus touchées étaient celles de Lombok du Nord, Lombok de l'Est et Mataram. Le 10 août, Joko Widodo, Maruf Amin sont arrivés au bureau de la Commission électorale générale maintenant à Jakarta Central pour s'inscrire en tant que candidat à la présidence et à la vice-présidence. Les deux sont arrivés simultanément le matin. La paire de Joko Widodo Maruf Amin était portée par le Parti de démocratie Indonesia Perjuangan, le Parti de Golkar, le Parti d'Hanura, le Parti de Kebangkitan Bangsa, le Parti de Persatuan Pembangunan, le Parti de Nasdem, le Parti de Solidaritas Indonesia, le Parti de Persatuan Indonesia, le Parti Keadilan dan Persatuan Indonesia. Tandis que Prabowo Subianto et Sandiaga Uno sont officiellement devenus candidats à la présidence et à la vice-présidence pour l'élection présidentielle de 2019 après s'être inscrits le midi. La paire Prabowo-Sandiaga Uno est portée par quatre partis politiques à savoir Gerindra, le Parti de Keadilan Sejahtera, le Parti Amanat Nasional et le Parti des Démocrates. Puis le 18 août, le président Joko Widodo a inauguré officiellement la 18e édition des Jeux Asiatiques de 2018, la fête sportive des pays asiatiques au stade principal Bung Karno à Senayan à Jakarta. Le président a déclaré que par le 18e Jeux Asiatiques, les nations asiatiques voulaient montrer leur fraternité. Les Jeux Asiatiques, auxquels ont participé environ 16 000 athlètes, se sont déroulés à Jakarta et à Palembang, à Sumatra du Sud, du 18 août au 2 septembre. En tant qu'hôte des Jeux Asiatiques, l'Indonésie a envoyé 1398 personnes, comprenant 938 athlètes et 396 officiels pour 40 sports. Le 26 août, le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizar Triakudu, a souligné que l'Indonésie s'est engagée à maintenir la paix mondiale, entre autres par le développement de l'architecture de défense nationale pour réaliser la stabilité de sécurité, la paix et augmenter la prospérité dans la région en tant que partie intégrante des intérêts nationaux. Cela a été dit par Ria Mizar Triakudu lors d'une visite de courtoisie au ministre de la Défense américain, James Mattis, à Washington DC. Puis le 30 août, l'Indonésie et la Namibie se sont mis d'accord pour lutter contre la pratique de la pêche illégale qui sévit dans les zones marines des deux pays. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré lors d'une conférence de presse avec le président de la République de Namibie, Hage Geoffrey Genghob, au palais présidentiel de Bogor, Java de l'Ouest. Les deux pays ont également convenu de développer leur coopération dans les domaines maritimes et de la pêche. À cette occasion, un accord a été signé entre les deux pays, auquel ont assisté directement le président Jokowi et le président Genghob. Le 31 août, l'Indonésie et l'Australie ont convenu de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le président indonésien Joko Widodo l'a exprimé lors d'une conférence de presse avec le nouveau premier ministre australien, Scott Morrison, après leur rencontre au palais présidentiel à Bogor, dans l'ouest du Java. Selon le président Joko Widodo, la première visite d'État du premier ministre australien, Scott Morrison, en Indonésie montre l'engagement du nouveau gouvernement australien à continuer de renforcer les relations mutuellement respectueuses et mutuellement bénéfiques. Les auditeurs, nous nous sommes tournés au septembre. Le vice-président Yusuf Kalla a reçu jeudi la visite du vice-premier ministre de la République démocratique du Congo, Leonard Chioquitundu Lundula, au bureau du vice-président de Jakarta pour discuter des projets visant à renforcer les relations entre les deux pays. Yusuf Kalla a déclaré que c'était très historique car il s'agissait de la première visite d'un autre responsable congolais en Indonésie, bien que les relations diplomatiques avaient duré plus de 56 ans. Le vice-premier ministre Lundula a déclaré qu'il a l'intention d'ouvrir une coopération avec l'Indonésie. La coopération entre les gouvernements indonésiens et congolais comprend les domaines de l'économie, de l'environnement et de la diplomatie. La signature de la coopération a été réalisée par les deux ministres des Affaires étrangères. Dans le même jour, le ministre de la Coordination des Affaires maritimes de la République d'Indonésie, Luhut Binsar Panjaitan, à l'ouverture de la deuxième réunion des hauts fonctionnaires des États insulaires, a souligné la nécessité pour les nations insulaires de s'unir pour prendre des mesures concrètes afin de surmonter les problèmes environnementaux. La réunion a discuté des déchets plastiques, du développement de l'économie bleue, l'adaptation au changement climatique de la bonne gouvernance, la gestion des catastrophes, la pêche durable et la croissance économique. Le ministère de la coordination des affaires maritimes de la République d'Indonésie et le programme des Nations Unies pour le développement ont tenu la deuxième réunion des hauts fonctionnaires des nations insulaires du 6 au 8 septembre 2018 à Jakarta. Puis le 7 septembre, l'ouverture du 7e sommet du processus de Bali. Le sommet a été assisté par 26 ministres de 45 pays membres et 3 organisations internationales. Le processus de Bali en 2018 est entré dans sa mise en œuvre de 15 ans et un forum initié par l'Indonésie et l'Australie pour le traitement de la contrebande et la traite des personnes dans la région. Puis le 28 septembre, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 accompagné d'une onde de tsunami a secoué la région de Donggala, Sulawesi centrale, à 18h02, heure centrale indonésienne. L'épicentre d'une profondeur de 10 km était situé à 27 km au nord-est de Donggala. Sutopo Purwonugroho, responsable du centre de données, d'information et de relations publiques de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, a déclaré que le nombre de morts de la ville de Palu jusqu'au 29 septembre à 10h, heure indonésienne occidentale, était 356 personnes et des milliers de maisons endommagées. Selon lui, la plupart des victimes sont mortes à cause du tremblement de terre. La suite, on parle de nouvelles en octobre. Le 5 octobre, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a rencontré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Winston Peters, à Jakarta. Selon la ministre Retno Marsudi, dans un communiqué de presse conjoint avec le ministre Winston Peters, les deux pays ont convenu d'intensifier les relations de coopération dans le cadre d'un partenariat global par la formulation d'un plan d'action. En outre, les deux pays ont également convenu d'augmenter la valeur de leurs échanges commerciaux de 2,56 milliards de dollars néo-zélandais en 2024. Puis le 6 octobre, le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a officiellement ouvert les Jeux para-asiatiques de 2018 au stade principal de Bung Karno à Jakarta. Cet événement sportif de 4 ans destiné aux athlètes handicapés de toute l'Asie est la troisième fois après la précédente édition à Guangzhou en Chine en 2010 et à Incheon, Corée du Sud en 2014. Les Jeux para-asiatiques ont eu lieu du 6 au 13 octobre et étaient participés par des athlètes de 43 pays. Puis le 7 octobre, dans son allocution d'ouverture du 27e de Musabaqah Tilawatil Quran National ou les concours de lecture du Coran à Medan, Sumatra du Nord, le président Joko Widodo a rappelé que l'islam est une religion qui était une bénédiction pour l'univers, qui apportait de la bonté au peuple et à l'Indonésie. Pour cela, il a rappelé aux musulmans de maintenir l'harmonie, la fraternité et l'unité, car ces trois choses étaient la principale force de la nation indonésienne pour devenir une source d'énergie pour la réalisation d'une Indonésie fertile et prospère, juste et sûre. Au moins 1550 participants venus de 34 provinces ont participé au Musabaqah Tilawatil Quran National. Le 8, lors de l'ouverture de la session plénière de la réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Bali, le président Joko Widodo a associé la situation économique mondiale actuelle à celle de la série de Game of Thrones, la lutte pour le pouvoir et l'influence a eu lieu. le président Joko Widodo a appelé les responsables mondiaux des politiques budgétaires et monétaires à prendre des mesures pour prévenir les effets des guerres commerciales, du bouleversement technologique et des incertitudes du marché. La réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale s'est déroulée du 8 au 14 octobre. Le 13 octobre, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, et le ministre des Affaires étrangères de Palestine, Riyad Al-Maliki, et le maire de Bandung, Odette Daniel, ont inauguré la Palestine Walk, Road to Freedom, ou en français, Marche de la Palestine, Route de la Liberté, un parc de 100 mètres situé à la rue d'Alun-Alun Timur, Bandung, Java de l'Ouest. La ministre Retno a expliqué que cet événement faisait partie d'une série de Indonesian Solidarity Week for Palestine, ou en français la Semaine indonésienne de la solidarité pour la Palestine, organisée par le ministre indonésien des Affaires étrangères du 13 au 17 octobre. Le 20 octobre, Sutopo Purwonugroho, responsable du Centre d'information et des relations publiques pour la gestion des catastrophes, a déclaré que l'impact du séisme et du tsunami survenu à Sulawesi Central le 28 septembre avait enregistré 2113 morts et 1309 disparus et 4612 blessés. Et 223 751 personnes ont été déplacées dans 122 endroits. Selon Sutopo, la période de réponse aux catastrophes de Sulawesi Central a été mise en œuvre jusqu'au 26 octobre. Chers auditeurs, nous nous tournons au 22 octobre. Environ 300 délégués de 30 pays ont discuté du développement de la apiculture et du miel sur le continent asiatique lors de la 14e conférence des apiculteurs asiatiques à Jakarta du 22 au 25 octobre. Le secrétaire général de l'Association indonésienne de l'apiculture, Mashhud, espère que cette conférence pourra devenir un vecteur d'échange d'informations sur les progrès technologiques et les résultats des dernières recherches dans le monde de l'apiculture asiatique. Dans le même jour, le président Joko Widodo a reçu le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, au palais présidentiel de Bogor, Java de l'Ouest. Le président Joko Widodo a exprimé sa préoccupation face au cas récent du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. La ministre Retno Marsudi a expliqué lors d'une rencontre avec le ministre Adel bin Ahmed Al-Jubeir que le président Joko Widodo espérait que le processus de l'investigation concernant le cas de la mort de Jamal Khashoggi pourrait être mené de manière transparente et approfondie. Puis, le 24, le président Joko Widodo a ouvert la 33e Trade Expo Indonesia à Tangerang, a rappelé aux entrepreneurs de tirer parti des opportunités alors que le monde connaissait une guerre commerciale. Le président Jokowi a déclaré que les entreprises indonésiennes devaient également élargir leur marché en pénétrant des marchés non traditionnels peu cultivés comme l'Asie du Sud, la Russie, le continent africain, le Moyen-Orient, la Turquie, le Pakistan et l'Amérique du Sud. À la soirée, le président Joko Widodo a ouvert le Forum international des jeunes musulmans organisé par l'organisation de Fatayat Nahdlatul Ulama à Jakarta du 25 au 28 octobre. Le président Jokowi a exprimé son appréciation pour le rôle des femmes sur l'histoire de la nation. Le président de Fatayat Nahdlatul Ulama, Anggia Ermar, a déclaré que 200 participants, dont 30 étrangers, entre autres l'Allemagne, les États-Unis et le Sri Lanka, ont participé à le forum visant à améliorer la coopération entre femmes musulmanes dans le monde. Le 24 octobre, la région spéciale de Yogyakarta a été désignée ville culturelle de l'ASEAN. La décision a été mise en œuvre au théâtre du temple de Prambanan, Yogyakarta. Cette stipulation est conforme à Yogyakarta en tant que lieu de la 8e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la culture et de la 14e réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN dans le domaine de la culture de l'ASEAN. Cette réunion biennale a eu lieu du 21 au 26 octobre. Puis du 28 au 31 octobre, l'Indonésie a tenu le 11e congrès de la langue indonésienne à Jakarta. Le congrès, dont le thème était « Célébrer la langue et la littérature indonésienne », a présenté 27 conférenciers de clé et 72 conférenciers de sélection du pays et d'étrangers. Le 29 et 30 octobre, l'Indonésie a accueilli la conférence de Our Ocean 2018 qui s'est tenue à Nusa Dua, Bali. La conférence, présidée conjointement par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre de la Marine et de la Pêche, Susi Pujiastuti, a été officiellement ouverte par le président Joko Widodo. Le 29, l'avion de Lion Air GT610, la route Jakarta-Pangkal Pinang, s'est écrasé après son décollage de l'aéroport international de Soekarno-Hatta de Tangerang. Tous les passagers et membres d'équipage de 188 personnes étaient morts. Ensuite, au novembre, le 1er novembre, le président Joko Widodo a reçu le ministre de l'économie et de l'énergie de la République fédérale d'Allemagne, Peter Altmaier, au Palais Merdeka à Jakarta. Le président du Conseil de coordination des investissements, Thomas Lembong, a expliqué que le président Joko Widodo et le ministre Altmaier discutaient de la révolution industrielle 4.0 et de la formation professionnelle. Puis le 3, le Festival indonésien international des contes de fées 2018 a eu lieu officiellement au Musée national de Jakarta. Le festival s'est déroulé le 3 et 4 novembre. 40 conteurs, y compris des conteurs d'Italie et des Philippines, ont y participé. Dans le même jour, la course cycliste du Tour de Singkarak 2018 a été officiellement ouverte et la ville de Bukit Tinggi est le point de départ de la première étape. Cet événement a lieu du 4 au 11 novembre. La distance parcourue par les participants du Tour de Singkarak 2018 était de 1267 km qui traversait 6 districts et villes de Sumatra de l'Ouest. Du 6 au 8 novembre, l'Indonésie était l'hôte du 5e programme mondial de sécurité sanitaire à Nusa Dua, Bali. La ministre de la Coordination du Développement Humain et de la Culture, Puan Maharani, a déclaré que le développement sanitaire était le pilier le plus important de la sécurité nationale. Et le 6, le ministre de la Coordination des Affaires Politiques, Juridiques et de Sécurité de la République d'Indonésie, M. Wiranto, et le ministre de l'Intérieur de l'Australie, Hon Peter Dutton, a présidé la réunion de 9 pays qui discutait de la résistance au terrorisme dans la sous-région. La réunion s'est déroulée à Jakarta et a impliqué des représentants de l'Indonésie, de l'Australie, du Brunei Darussalam, des Philippines, de la Malaisie, du Myanmar, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et de la Thaïlande. Au 7 novembre, le vice-président de l'Indonésie, Yusuf Kalla, a ouvert l'Indo-Défense Expo and Forum, une exposition et un forum sur le principal outil des systèmes d'armement de la production domestique à Jakarta. Pour cette raison, M. Yusuf Kalla a demandé que l'industrie nationale de la défense soit améliorée par l'innovation technologique et scientifique. Au total, 867 entreprises du secteur des équipements de défense de 60 pays, entre autres l'Australie, la Grèce, la Slovaquie, l'Arabie Saoudite et le Japon, ont participé à la tenue d'Indo-Défense pendant 4 jours. Le 7 et 8 novembre, l'Indonésie a accueilli la Conférence mondiale sur l'économie créative de 2018. Cette conférence a produit 21 points qui ont été approuvés par les délégués de 36 pays. Le 21 point était basé sur 4 facteurs, à savoir la collaboration et la collectivité, le soutien au développement des écosystèmes, la célébration, promotion, autonomisation des objectifs de développement durable, patrimoine culturel et diversité, ainsi que les plans pour la prochaine conférence aux Émirats Arabes Unis en 2020. Le 13 novembre, le président Joko Widodo et la première dame Iriana Joko Widodo ont assisté à l'ouverture de la 33e conférence de haut niveau de l'ASEAN au centre de convention Suntec à Singapour. Lors de la séance plénière, le président Joko Widodo a invité les pays membres de l'ASEAN à participer à la résolution des problèmes liés à la crise humanitaire à l'état de Rakhine au Myanmar. Le 15, le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, Ria Mizat Riakudu, et le ministre de la Défense de Malaisie, Haji Muhammad bin Sabu, ont discuté de la coopération entre les zones frontalières dans la 41e réunion du comité Malaisie-Indonésie sur la frontière à Kuta Bali. Le 17 novembre, le président Joko Widodo a participé à la conférence de haut niveau de la coopération économique d'Asie-Pacifique ou APEC à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le dirigeant de l'APEC devrait aider les pays des îles du Pacifique face aux effets du changement climatique et aux problèmes du milieu marin. Le 21 et 22 novembre a eu lieu à Jakarta la réunion inaugurale des autorités de la drogue des pays de l'Organisation de la coopération islamique. La réunion a abouti à un accord de déclaration de Jakarta. Les pions de cette déclaration sont entre autres des efforts pour harmoniser les normes en vue de l'indépendance des médicaments et des vaccins pour les pays de l'Organisation de la coopération islamique, en particulier pour les pays sous-développés. Puis nous nous sommes tournés au décembre. Le 2 décembre, le ministre des Travaux publics et du Logement de la République d'Indonésie, Basuki Hadi Mulyono, a déclaré que le gouvernement construisait 3500 km de routes trans-papouane et de Papouasie de l'Ouest et 1100 km de routes frontalières. En outre, le président Joko Widodo a annoncé que 35 ponts seraient construits sur la route de Trans-Papoua de Wamena à Mumugu. Le 4 et 5 décembre, la Commission d'éradication de la corruption a organisé la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption qui a eu lieu chaque année le 9 décembre. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, à Jakarta, a souligné que les efforts visant à éradiquer la corruption devraient être un mouvement ensemble mené par la Commission d'éradication de la corruption, le gouvernement et la communauté. Le 6 et 7 décembre, le gouvernement indonésien a tenu le 11e Forum démocratique de Bali, ou abrégé en BDF, en 2018 à Nusa Dua, Bali. Ce 11e BDF parle du thème de la démocratie pour la prospérité. L'objectif principal de ce forum est de fournir une plateforme pour le partage d'expériences entre les acteurs étatiques et les parties prenantes qui sont pertinents pour comprendre le défi lié à la garantie d'une démocratie assurant la prospérité. Le forum de cette année a organisé la deuxième conférence des étudiants sur la démocratie de Bali, à laquelle ont assisté 150 étudiants indonésiens et universitaires. Pour la première fois, le forum de la société civile et des médias de Bali se sont tenus parallèlement à la 11e réunion du BDF et à la 2e conférence des étudiants sur la démocratie de Bali. Cela vise à optimiser la participation de la société civile et des médias comme des agents de prospérité. Le 10 décembre, la Commission nationale des droits de l'homme a commémoré la Journée internationale des droits de l'homme. En commémorant la Journée internationale des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme a demandé au gouvernement de régler un certain nombre de cas de violations graves des droits de l'homme dans le passé. À la fin de 2018, de mauvaises nouvelles est venue de la province de Bantan. Samedi soir, 22 décembre, vers 21h08, heure de Jakarta, le tsunami du détroit de Sunda a touché plusieurs zones de Bantan. Données provisoires du poste de commandement de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, lundi 24 décembre, jusqu'à 7h08, heure de Jakarta, a dit que 281 morts, 1016 blessés et 57 disparus. Les dommages matériels comprennent 611 logements, 69 hôtels et villas, 60 magasins et boutiques et 420 bateaux et navires, tous sont endommagés. Les auditeurs, c'est tout le Kaléidoscope 2018. Merci de votre attention.
Merci d'écouter le Kaléidoscope de juillet à décembre 2018. Demain, nous revenons avec des événements sportifs de janvier à juin 2018. Présenté par TV Shakira. À bientôt.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz. Par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Chers auditeurs, maintenant, je vous présente le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Rencontrons-nous dans le Magazine Culturel. Pour ce soir, nous vous inviterons à voyager dans la province de Java Oriental pour profiter de la beauté de la cascade Serambang à Java Oriental. Chers auditeurs, Java Oriental donne toujours des surprises aux touristes. Il y a beaucoup de nouvelles attractions touristiques dans la province, dont l'une est la cascade de Serambang située sur les pentes du Mont Lawu, le village de Giri Mulyo, le district de Jogorogo, la préfecture Ngawi, Java Oriental. Cet objet est situé au milieu d'une forêt de pins gérée par Kesatuan Pemangku Hutan Lau à environ 40 km du centre-ville de Ngawi. Serviteur, pour se rendre dans le district de Jogorogo, la résidence Ngawi n'est pas difficile. Cette zone peut être atteinte de deux directions, à savoir Madiun Ngawi Jogorogo ou l'autre direction, Sragen Java Central Ngawi Jogorogo. C'est parce que la montagne Lau est une région frontalière de la province de Java Oriental avec le centre de Java. Jusque ce district de Jogorogo, les touristes peuvent toujours utiliser des véhicules privés ou publics, car la route a été pavée. Mais pour arriver à la cascade, les touristes doivent passer la rue de village qui n'a pas encore été pavée. Pendant le voyage, les touristes découvriront le paysage magnifique, des zèbres vertes sur le magnifique pente de la montagne et l'air frais de montagne est naturel. Parfois, les pas des touristes sont coupés par un petit ruisseau, si bien qu'ils doivent donc sauter d'une pierre à l'autre pour ne pas se mouiller. Mais il s'avère que de nombreux touristes jouent réellement de l'eau dans la petite rivière, car ils sont impatients de sentir la fraîcheur de l'eau dans la région montagneuse. Le trajet à pied jusqu'à la cascade en marchant dure environ une heure, qui est assez fatigant. Mais la fatigue disparaîtra bientôt lorsque le corps sera exposé à des éclaboussures d'eau de montagne. Serviteurs, sur les sites touristiques, les visiteurs peuvent faire diverses activités telles que se promener tout en profitant de la beauté de la nature, ressentir la fraîcheur de l'eau de la cascade et prendre des photos dans divers lieux touristiques. Se baigner sur la cascade de Srambang rafraîchit le corps et l'esprit. Serviteur, pour entrer dans ce site touristique, vous devez d'abord acheter un billet. Le prix du billet est seulement 15 000 rupiah par personne. En payant le prix du billet, les touristes peuvent profiter du panorama naturel et diverses installations qui ont été fournies. La cascade de Srambang est ouverte de 8h à 18h. Avant de passer des vacances inoubliables, vous devez prendre en compte plusieurs éléments, notamment éviter de vous rendre à la cascade de Srambang pendant la saison des pluies, de peur des glissements de terrain. Lorsque vous rentrez chez vous trop tard ou que vous souhaitez vous sentir plus longtemps dans la région, vous pouvez également trouver un hôtel à proximité de ce lieu touristique. Serviteurs et serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre La cascade Srambang à Ngawi en province de Java Oriental. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'Indonésie en couleur et pour le titre, le parti d'alphabétisation Kereta Api Jali. Depuis l'an 2016, le ministère indonésien de l'éducation et de la culture a lancé le mouvement pour l'alphabétisation scolaire afin d'accroître la capacité des étudiants à comprendre l'information de manière analytique, critique et réfléchie. Les compétences en alphabétisation se présentent maintenant sous différentes formes allant de l'alphabétisation visuelle, l'alphabétisation numérique, l'alphabétisation littéraire à l'alphabétisation d'Alcoran. Et pour soutenir le mouvement de l'alphabétisation scolaire, chaque école est en compétition pour améliorer les compétences de l'alphabétisation littéraire des élèves. L'une d'elles est l'école primaire publique ou SDN Inpres Tulawi, organisée en partie d'alphabétisation intitulée Kereta Api Jali, dans le cadre de sa contribution au soutien du mouvement pour l'alphabétisation scolaire. La fête de l'alphabétisation Kereta Api Jali ou la créativité des enfants intelligents pour l'alphabétisation a eu lieu samedi le 22 décembre 2018 de 8h à 14h heure locale. Cette activité est organisée par des consultants bénévoles de l'école indonésienne d'alphabétisation en collaboration avec Awardi Bakti Nusa Dompet Duafa et les enseignants de SDN Inpres Tulawi. Cette fête de l'alphabétisation se présente sous la forme d'activités simples et hautement inspirantes, impliquant tous les élèves afin qu'ils puissent participer directement. Les élèves de la classe 1 et 2 participent au concours de coloriage ou la branche de l'alphabétisation visuelle. Les élèves des 3e et 4e années participent au concours de lecture de poésie pour réaliser une branche de l'alphabétisation, tandis que les élèves de 5e et 6e année participent au concours du quiz en tant que manifestation de l'alphabétisation scientifique. Après que ces trois courses aient été achevées, puis cet événement a été continué avec outbound inspirant réalisé sur la cour de l'école. Les étudiants et les enseignants de SDN Inpres Tulawi étaient très enthousiastes à participer car cette activité était la première fête de l'alphabétisation organisée à SDN Inpres Tulawi. Salama SPD, une enseignante modèle de SDN Inpres Tulawi, espère que cette fête d'alphabétisation pourrait être organisée à nouveau car cette activité peut être un lieu pour trouver des étudiants talentueux, développer leur créativité et leur apprendre à participer et à oser paraître. Serviteurs, c'est à l'inclusion encore pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous, au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du service mondial de la voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. L'édition du magazine musical aujourd'hui va vous présenter les chansons de Meli Mono. Pour commencer notre rencontre d'aujourd'hui, je vous donne la chanson intitulée Free ou en français libre. Bonne écoute!
Terlalu lama untuk aku menyadari betapa kau tak peduli tuk menyakiti. Ingin ku melepas segala perasaan padamu selama ini aku tersiksa. Aku mencoba untuk bertahan tetap setia, namun ku tak kuasa. Aku mencoba tetap mencinta, namun tak lagi hati ini bisa.
I can't be without you. No, I'll be free. Aku mencoba untuk bertahan, tetap setia, namun ku tak kuasa. Aku mencoba tetap mencinta, namun tak lagi hati ini bisa.
La chanson de Meli Mono, dont le titre est Free. La chanson publiée par Meli Mono à la fin de 2018 a été produite par Nutia Surya Gumilang. La chanson intitulée Free, qui signifie libre, montre une nouvelle histoire de la carrière musicale de Meli Mono. Les paroles de cette chanson décrivent quelqu'un qui a longtemps essayé d'aimer son petit ami. Mais apparemment, jusqu'à présent, son petit ami n'est devenu pour lui qu'un fardeau. Après l'avoir quitté, elle ressent libre. Malgré le thème de l'amour, selon Meli Mono, cette chanson rappelle à toutes les personnes d'oser prendre des décisions et de donner la priorité au bonheur plutôt que de rester silencieux et de souffrir. Bon, chers auditeurs, écoutons ensuite l'autre chanson de Meli Mono, s'intitule Bagi Rasa, ou en français, Partage des sentiments.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4S5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.